Rodolphe Bringer, Joséphin enterre sa vie de garçon. Lorsqu'ils apprirent que Joséphin allait se marier, la première pensée de ses amis fut de lui dire « J'espère que tu vas un peu proprement enterrer ta vie de garçon. » Et Joséphin, hochant la tête, assura que ce serait un enterrement de première classe et dont il serait parlé longtemps dans le pays. C'est que Joséphin Bourguidon devait à sa réputation de faire magnifiquement les choses. Noblesse oblige, et quand on est le jeune homme le plus célèbre à 20 lieues à la ronde, pour la façon joyeuse dont on a mené son existence, on ne peut mettre fin à cette vie de bâton de chaise sans que le dernier chapitre de ce jovial et folâtre roman ne clôture pas dignement 15 bonnes années de bombance, de gaudrioles et de grivoiseries. Il faudrait tout de même pas croire que Joséphin fut un de ces débauchés qui sont le perpétuel scandale d'une bourgade, un de ces mauvais garnements qui ne pensent qu'à déclocher les filles, à détourner les femmes de leurs devoirs, hein, de ces coureurs qui n'ont que le jupon en tête, non! Certes, quand l'occasion s'en présentait, Joséphin ne crachait pas dessus, et il savait être poli avec les personnes qui ne cherchent qu'à s'en faire compter. Mais ce n'était point un bourreau des cœurs, et aux joies de la chair, il avait toujours préféré les délices de la table. Pour un bon déjeuner, Joséphin eut lâché les plus jolies femmes du monde, et une vieille bouteille, un savoureux verre de fine, une volaille bien dorée et congrûment farcie de truffes, lui paraissait préférable à tous les tendrons, et s'il sacrifiait à Vénus, ce n'était lorsque Bacchus avait reçu ses copieuses libations. Et comme depuis sa sortie du régiment, Joséphin n'avait eu d'autres complications que de gérer la fortune immobilière de sa mère, on comprend que les loisirs ne lui avaient pas manqué pour satisfaire à sa passion de bamboucheur, et pour y faire face, comme sa fortune personnelle n'y aurait pas suffi, il était assez bon intendant pour prélever sur les revenus maternels une large part qui, en somme, n'était pour lui qu'une sorte d'avance d'oirie. Car Joséphin vivait avec sa vieille mère, qui lui fournissait le vivre, le couvert, payait son tailleur, son chemisier et son bottier, et même lui accordait une petite mensualité dont il ne restait plus trace le 2 du mois, et qu'il complétait heureusement en faisant joyeusement sauter l'anse du panier. Probablement Madame Bourguidon n'était pas sans se douter de cette dîme, mais elle fermait les yeux, car il faut le dire, Joséphin était un bon fils, et pourvu que sa mère ne contrôlât pas trop l'heure tardive de ses rentrées nocturnes, il était aux petits soins pour elle et faisait l'impossible pour la contenter. Et il ne faut point douter que ce ne fut uniquement pour lui faire plaisir que, arrivé à la 32e année de son âge, Joséphin eut consenti à faire une fin en épousant Mademoiselle Séraphine Bouzette, la fille du plus riche grainetier de tout le territoire, et qui de surcroît était assez bien tournée, point désagréable à regarder. « Bah !» se dit Joséphin le jour où sa mère, le priant de se marier, avant qu'elle ne fermât les yeux, lui dit que rien ne lui ferait plus de joie et de contentement que de le voir s'unir avec cette jeune Séraphine, en qui elle devinait une brune modèle. « Bah ! L'état de mari ne m'empêche pas de se livrer de temps en temps à quelques bonnes godichonnades. » Et puis, il faut bien un jour faire une fin. Seulement, avant que de faire le grand saut dans la vie conjugale, il essayait d'enterrer dignement sa vie de garçon, et Joséphin se promit de soigner particulièrement cette cérémonie. Ce n'était certainement pas à Gonfle-Bouffigues que cette fête aurait lieu. D'abord, à Gonfle-Bouffigues, il n'y avait pas un seul hôtel capable de lui cuisiner le menu pantagruélique qu'il rêvait. Et puis, à Gonfle-Bouffigues, on n'aurait pas ses coudées franches, et le lendemain, tout le monde le saurait, ce qui serait passé au cours de cette ultime et suprême bombe. Non, la chose serait célébrée à Roubionnas, la sous-préfecture proche. Là, ni vu ni connu, et l'hôtel de la Croix d'Argent était réputé pour l'excellence de sa cave, comme pour les talents de son cuisinier. Joséphin invita donc ses amis intimes au nombre d'une douzaine à la Croix d'Argent de Roubionnas, et comme les 10 amis estimèrent que quelques minois féminins ne pourraient qu'égayer le repas, On se trouva 18 à table, dont 6 jeunes personnes recrutées soigneusement parmi les poules les plus huppées du Rubionas. Et en somme, tout se fut passé le mieux du monde. Si cet animal de fenouillet n'eût amené Marie la passoire, qui est, comme vous ne l'ignorez pas, l'étahir la plus cocotée de Rubionas, et si la dite Marie la passoire n'eût pas voulu faire profiter de cette petite fête sa nièce qu'elle éduquait, disait-on, en vue de lui laisser sa riche clientèle, car elle était d'âge à se retirer personnellement des affaires. Cette jeune personne se nommait Clémentine, mais répondait plus facilement au nom de Gingourle, que les jeunes gens de Rubionas lui avaient donné, sans doute à cause de son teint qui était chaud et doré comme les fruits du jujubier, que l'on appelle des gingourles dans la langue de Mistral. Certes, je ne voudrais pas vous faire venir l'eau à la bouche, et cependant, il est de mon devoir de vous dire que cette petite gingourle était bien la plus jolie fille et la plus excitante qui se puisse rencontrer. Longue et fine comme un brin de bouleau, brune comme une zigane, avec des cheveux d'un noir bleu, des yeux qui ressemblaient à deux grains d'anthracite, et une bouche qui saignait comme une framboise. Joséphin, qui ne la connaissait pas, en fut tout de suite émerveillé, et tout le long du dîner, qui fut, comme vous le pensez, bien des plus plantureux, il en oublia de boire et de manger, tout occupé à causer avec cette diablesse de gingourle, spirituelle, gaie et enjouée, et dont la conversation était encore plus pétillante que le champagne qui coulait à flot ce soir-là. Ce fut un véritable scandale, et les amis de Joséphine passèrent leur temps à protester, se plaignant que le héros de la fête les négligeât à ce point. Et il est un fait que, sur le coup de minuit, alors que les convives étaient dans un état pitoyable, incapables presque de se tenir debout, seuls Joséphin et Gingourle, qui n'avaient même pas pensé à vider leur verre, avaient conservé tout leur sang-froid et se trouvaient ainsi dispos que s'ils n'eussent pris qu'une légère collation de carême. Jamais depuis 32 ans qu'il était au monde, Joséphin n'avait eu l'occasion de se rencontrer avec une personne aussi capiteuse à la fois et aussi intéressante que cette satanée petite gingourle. Et, ma foi, il se dit que puisqu'il allait se marier, que dans 3 jours il aurait juré par devant le maire et le curé fidélité éternelle à mademoiselle Séraphine, il serait bien bête de ne pas profiter de ce qu'il avait encore les mains libres pour ne pas s'offrir ce fin morceau, et que ce serait merveilleusement enterrer sa vie de garçon que de la clôturer par une conquête aussi agréable. Aussi, tandis que ses amis continuaient à boire, bien que certainement ils n'eussent plus soif, et qu'ils se livraient à toutes ces fines plaisanteries qui terminent généralement les dîners de garçons, Joséphin s'éclipsait gentiment avec la jeune et jolie gingourle, et tous deux allaient amoureusement finir la nuit dans le logis de la jeune personne. Et s'il faut tout vous dire, il faut croire que la conversation au lit de demoiselle Gingourle était encore plus captivante que celle qu'elle soutenait à table, car cette fameuse dernière nuit que Joséphin voulait s'offrir avant de se marier fut si longue, que 3 jours après, alors que mademoiselle Séraphine, en toilette blanche, attendait son prétendu, entourée de tous ses invités, elle n'était pas encore terminée. Il paraît que dès le matin, par le premier train, Joséphin et Gingourle avaient filé vers des Marseilles, des Nice et des Côtes d'Azur, et c'est en vain que Madame Bourgidon, la mère, et Monsieur Bourzette, le futur beau-père, lancèrent des télégrammes dans toutes les directions pour ne plus mettre la main sur ce satané Joséphin. Et à l'heure où j'écris ces lignes, et 35 jours s'étant passés depuis que Mademoiselle Séraphine, sous son voile de tulle et sa fleur d'oranger, attendait son futur, cet animal n'a pas encore donné de ses nouvelles. Et le plus joyeusement du monde, en quelque coin du littoral, en compagnie de la jolie gingourle, il enterre sa vie de garçon.